L'histoire n'est pas une nostalgie, mais c'est un tremplin nécessaire pour l'avenir.
Le témoin de ce vendredi, Romain Bertrand, ou l'histoire à parts égales.
Les indigènes nous accueillent avec la plus grande générosité et en toute confiance. En raison de notre aspect étrange, nous avons été pris pour des dieux et traités comme tels. Malgré la complaisance des Indiens, nous ne rapportons pas de grandes quantités d'or, si ce n'est les quelques objets qu'ils nous ont offerts en signe de soumission.
Longtemps, en Europe, nous avons utilisé l'expression flatteuse de grande découverte. À nos yeux, elle constituait la preuve et la preuve indiscutable de l'entrée de notre continent, le premier et de loin, dans la modernité. Au siècle dernier, de grands historiens nous prévenaient déjà de la suffisance de ce point de vue. C'est bien, disait Fernand Braudel, de voir le monde comme une bouteille pleine, mais pourquoi faut-il toujours la tenir par le goulot de l'Occident ? Ce qu'on appelle l'histoire globale est née de ce type de réflexion. Elle a le mérite de nous obliger à nous déplacer d'un point à l'autre du globe à grandes enjambées. Reste à faire tout un travail de dépaysement, à changer de regard, à observer les rencontres telles qu'elles se sont produites au ras des hommes. Les empires occidentaux, ainsi qu'on les nomme, sont en réalité de grandes structures fragiles qui cherchent à s'adapter à des situations toujours différenciées. Les historiens qui les observent ressemblent, eux, à des électriciens perplexes qui se demandent comment ont pu se former les connexions et les circulations.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Romain Bertrand, bonjour.
Bonjour.
L'histoire à parts égales, c'est le titre d'un maître livre que vous avez publié il y a 3 ans aux éditions du Seuil. Vous savez que le nouveau, toujours aux éditions du Seuil, ça c'est quand même étonnant, on le voit en vitrine dans un magasin de mode féminine à Blois. Alors moi, je vous donne le nom du magasin parce que vous n'avez pas encore repéré, c'est Femme d'à côté. Et vous, vous nous donnez le titre du livre.
Le long remords de la conquête.
Le long remords de la conquête. Peut-être même notre remords. Alors, je vous fais comparaître ici comme témoin. Il y a un grand événement que je recommande, mais c'est à guichet fermé qu'on va jouer. C'est à 19h à la Maison de la Magie, samedi, ici à Blois, un live d'historiens. Alors je vous explique, il y a 10 historiens qui se plantent devant le public et qui racontent quelque chose de leur vie qui a un rapport avec leur recherche. Alors on va pas dévoiler le live. Vous pourriez raconter quand même celui que vous avez fait à New York, en anglais, vous allez le raconter en français. C'était un peu un exercice du même genre et qui racontait vos débuts sur le terrain.
Oui, mais qui racontait des débuts qui finalement se sont révélés être un désastre absolu. Donc au temps où je nourrissais encore l'idée, l'espoir de me consacrer plus à l'ethnographie qu'au travail sur archives, je racontais tout simplement que l'un des premiers séjours de longue durée dans la région de Malang, à l'est de Java, que j'avais fait, s'était soldé par un échec absolu.
Et pourquoi ?
Parce que vivre dans un village javanais pendant plusieurs semaines, c'est exténuant. Et ce qui est le plus exténuant, et c'était ça en fait la ligne thématique de l'intervention à New York, dans le cadre d'un événement organisé par la Villa Gilet, c'est qu'on ne dispose à aucun moment d'une intimité réelle.
Bah oui, évidemment, vous viviez dans un village avec la porte fermée. Comment voulez-vous que les gens ne se demandent pas ce que vous fricotez derrière ?
Exactement, ils se le sont demandé jusqu'au point où les rumeurs sur ma pratique potentielle de la sorcellerie ont commencé à courir dans ce village. Et tout ça a mené à un moment d'explicitation, de clarification, et à mon départ.
Peut-être verra-t-on que vous avez un goût constant pour les filtres. Mais ce sera plus tard dans l'émission. Moi, je vous aurais bien vu marin, parce que vous parlez très bien des marins. Vous dites que pour considérer les conquêtes, les découvertes, enfin, je ne sais comment dire, les rencontres impériales, pour reprendre votre langage, il faut partir des archives, bien sûr, mais il faut s'imaginer sur un gaillard arrière de bateau.
Oui, alors d'abord parce que les documentations, les sources avec lesquelles on essaye de faire le récit de ces situations de contact au loin, sont souvent des sources produites par ceux qui voyagent à bord des galions, des grandes nefs ibériques pour ce qui est du XVIe siècle. On a récits de voyage, journaux de bord des capitaines, lettres de commerce des commis. Donc on fait avec ça et on fait avec ça tout en sachant qu'être sur le gaillard arrière d'un bateau, ça vous fait voir les sociétés locales comme les Européens les voyaient et ça ne vous en fait voir qu'un tout petit bout.
Mais on peut aussi être attaché à un mât comme dans le prologue du soulier de satin.
Au tronçon du grand mât est attaché un père jésuite, comme vous voyez, extrêmement grand et maigre. La soutane déchirée laisse voir l'épaule nue. Le voici qui parle comme ici. Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché, mais c'est lui qui va parler.
Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. Et c'est vrai que je suis attaché à la croix. Mais la croix où je suis n'est plus attachée à rien. Elle flotte sur la mer. La mer, libre à ce point où la limite du ciel connu s'efface et qui est à égale distance de ce monde ancien que j'ai quitté et de l'autre nouveau.
La version Parot du soulier de satin. Ah, si on entendait ce qui se murmure, ce qui se crie sur les bateaux, on entendrait des échos du messianisme.
Oui, tout à fait, et en particulier au XVIe siècle, avec cette particularité qu'on entendrait des cris qui sont à la fois des cris évidemment de victoire, de conquête, des cris qui appellent à soumettre les sociétés pour les convertir à la vraie foi, et des cris qui, sitôt que la conquête se met en branle, sont aussi des cris qui la dénoncent.
Oui, alors ça, on va y venir. Le jésuite va peut-être dénoncer ce qu'il rêve d'entreprendre. Mais vous parlez des piétés navigantes. Alors les gens chantent, les gens invoquent la Vierge dès qu'il y a un coup de vent.
Oui, d'abord les gens ont peur à bord des navires. Ils ont bien raison d'avoir peur, puisque les taux de mortalité pour les premières grandes traversées de l'Atlantique puis de l'océan Indien sont considérables, de 30 à 50% pour ce qui est en tout cas de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Et ils tentent de conjurer les périls réels ou fantasmés, précisément à coup de petits rituels et de grands rituels aussi à bord des navires.
Donc vous n'avez pas été marin, vous n'aviez déjà pas le pied de terrain, mais vous n'avez pas le pied marin non plus. L'habitude, quand on raconte le contact, c'est de décrire une arrivée toute de bruit et de fureur, notamment quand il s'agit de l'arrivée des Espagnols. Alors notons la date où intervient ce nouveau son d'archives, enfin, les archives à notre façon. Nous sommes en 1521. On va rester un instant d'ailleurs sur cette date. On va entendre le récit de la conquête de Mexico par la bouche d'une indienne, toujours le souci de l'histoire à parts égales. Cette indienne, elle est très connue, non? La Malinche.
Oui.
C'est qui?
La Malinche, c'est ça.
Ah, c'est déjà mieux.
Oui.
Mais vous avez un grand-père espagnol, vous.
Oui, oui, oui.
Qui vous a appris
oui,
à la fois le catalan et le castillan.
Oui.
Oui, alors donc, comme vous disiez...
La Malinche, c'est cette femme qui est captive, mais de condition aristocratique, que rencontre Hernán Cortés, très tôt dans sa marche sur Mexico, le long des côtes du Yucatan, et qui va devenir son interprète auprès des autorités locales. Et certains disent qu'elle fera tampon et adoucira la conquête espagnole, d'autres disent au contraire qu'elle livrera tous les secrets de la Triple Alliance, c'est-à-dire de l'Empire aztèque aux Espagnols, et donc sera la première grande traîtresse de l'histoire mexicaine.
Leurs harnais de guerre sont tous de fer. C'est de fer qu'ils se revêtent. D'un haume de fer qu'ils couvrent leur tête. De fer sont leurs épées, de fer leurs arcs, de fer leurs boucliers, de fer leurs lances. De tous côtés, leurs corps sont emmitouflés. On ne voit paraître que leur visage. Il est blanc comme s'il était de chaux. Ils ont les cheveux jaunes, longues et leur barbe, qui est jaune également. En outre, leurs chiens sont énormes. Ils ont les oreilles frémissantes et aplaties, de grandes langues pendantes. Ils ont des yeux qui répandent du feu. Ils ne cessent de cracher des étincelles. Leurs yeux sont jaunes, d'un jaune intense.
Vera Feder, dans les grandes batailles du passé, TF1 d'autrefois. Oui, bon, alors, on entend bien fer, étincelle, feu. Mmh. Ce qui vous intéresse plus, peut-être encore, Romain Bertrand, c'est l'importance des truchements. C'est un truchement, cette fille.
Oui, tout à fait. Un truchement au sens ancien du mot, c'est-à-dire un interprète. Quelqu'un qui va naviguer entre les langues pour le compte des Espagnols et peut-être un peu aussi d'ailleurs pour son propre compte. Et dans ces situations qui sont des situations de prise de contact avec des sociétés immenses, totalement méconnues, évidemment la question du rôle des interprètes est tout à fait essentielle.
Alors les interprètes, les intermédiaires, Sanjay Subramaniam nous a expliqué ici même que sans les pilotes arabes, Vasco de Gama ne serait pas parvenu si aisément sur la côte de l'Inde.
Oui, tout à fait. Traverser l'océan Indien, ils y seraient peut-être parvenus, mais probablement en y mettant beaucoup plus de temps, de moyens. Mais effectivement, ce sont des pilotes arabophones de la côte orientale africaine qui ont aidé les Européens à comprendre. L'océan Indien, c'est compliqué. C'est surtout compliqué à cause des vents de mousson, qui sont des vents tournants. C'est une navigation dangereuse. Donc oui, il a fallu ces secours, ces concours locaux pour que les Européens puissent par la suite, alors non pas conquérir tout de suite, mais en tout cas s'implanter par petites grappes, par petits groupes sur les côtes de l'Asie.
On était en 1521 tout à l'heure à Mexico. On va aller aux Philippines, ce qui ne s'appelle pas encore les Philippines à la même date, avec l'arrivée de Magellan. Si un jour vous consacriez un livre à Magellan, non, peut-être.
J'y songe d'ailleurs.
Vous feriez une grande place à un intermédiaire étonnant qui s'appelle Henrique.
Oui,
sans lequel Magellan n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait.
Oui, Henrique de Malacca, c'est un personnage qu'on voit apparaître dans les sources contemporaines, et notamment celles qui rendent compte de la grande circumnavigation de Magellan en 1519-1521. Vous l'avez rappelé, bon, 1521, c'est la chute de Mexico-Tenochtitlan, mais c'est également la date de la fin du périple et de la mort de Magellan sur une toute petite île des Philippines, dans les Bisayas, la partie centrale de l'archipel, sur l'île de Mactan. Et ce jour-là, précisément, Magellan est tué au cours d'une bataille dont les tenants et les aboutissants restent assez obscurs, mais les chroniqueurs de l'expédition attribuent ce qu'ils considèrent être un assassinat à celui qui est devenu l'interprète et le confident de Magellan, qui s'appelle Henrique.
Mais qui lui a indiqué les passages, parce qu'il venait de la route de l'Ouest?
Alors, probablement pas, puisque Henrique n'avait probablement jamais navigué dans cette direction-là, c'est-à-dire n'était jamais passé des Amériques à l'Asie. En revanche, c'est une histoire effectivement assez étonnante, puisque Magellan rencontre Henrique à Malacca au moment où les Portugais, sous l'étendard d'Albuquerque, s'emparent de la ville en 1511. Et on nous dit qu'à cette époque, Henrique, c'est un adolescent de 16 ou 18 ans et qu'il vient des Philippines. Ce qui veut dire que si Henrique est venu des Philippines jusqu'à Malacca, est rentré en Europe avec Magellan, puis reparti avec Magellan pour retourner aux Philippines, il est celui qui véritablement a fait le tour du monde.
Allons bon.
Oui, mais il a manqué quelques milliers de kilomètres à Magellan, entre précisément les Philippines et Malacca.
Et puis sa vie, en effet, va être abrégée. Vous avez déjà raconté les circonstances de sa mort. Moi, je voulais vous faire entendre, d'après le roman de Léonce Payard. Vous n'avez pas l'air de connaître Léonce Payard, moi non plus, mais c'était, paraît-il, le meilleur spécialiste de Magellan, et on faisait appel à lui sur Paris Inter. Voilà comment Magellan prend possession de l'île où il va disparaître.
Moi, capitaine général Hernando de Magellan, grand maître de l'ordre de Santiago, commandant la puissante flotte que voici, prend possession ce jour, 17 avril 1521, de cette île et de tout l'archipel qui l'entoure.
On a érigé un baldaquin sur la plage. Sur des tapis à portée du bord, on a posé des fauteuils tendus de soie. Un pour Magellan, un pour le roi de Zébu, qui se trouve ainsi très honoré.
Tranquillisez-vous, nous venons ici avec des intentions pacifiques. Et votre bien-aimé roi Humabon demeurera sous notre protection, votre souverain. Mieux, nous donnerons plus d'ampleur à sa puissance. Et s'il obéit à la loi divine, il deviendra le représentant de notre roi très chrétien, Carlos Ier, sur tout l'archipel.
Sur une colline, on élève une immense croix, afin que de loin les navires sachent qu'ici est telle chrétienne. Magellan, à genoux devant l'autel, communie. Et soudain, le roi Humabon quitte à son tour son fauteuil et imite, sans bien les comprendre, chaque geste de Magellan. Devant l'autel, il s'agenouille et le prêtre se penche et il le baptise.
Carlos Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Depuis les rendez-vous de l'histoire à Blois, nous tentons de faire de l'histoire à parts égales avec Romain Bertrand qui publie au Seuil le long remords du pouvoir. Oui, vous avez eu Paris
de
Inter.
De la conquête,
pardonnez-moi. Paris Inter, en 55, adaptant Payard, donne la parole à la fois à un Indien et aux témoins portugais. Alors évidemment, c'est peut-être un peu romancé. Je ne sais pas si la flotte était si puissante que ça. Et je ne sais pas s'ils ont pris possession de tout l'archipel, certainement pas.
Ils l'ont cru, probablement.
Mmh. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est l'acte de prise de possession. Vous dites que l'histoire n'est pas faite dans les conquêtes seulement de bruit et de fureur, mais d'encre.
Oui, parce que la première chose que voient les Européens en général, et les Espagnols en particulier lorsqu'ils arrivent en Asie, et en l'espèce dans les Philippines, c'est une plage déserte. C'est-à-dire que les habitants, ayant aperçu les navires à l'approche, ont fui les villages côtiers, se sont réfugiés dans les montagnes avoisinantes, et donc les Espagnols débarquent seuls sur une plage, et effectivement la première chose à laquelle ils se livrent, donc avant même de dégainer leurs épées, c'est un acte de prise de possession. Il s'agissait d'actes qui étaient extrêmement normés, donc prise de possession au nom du roi d'Espagne.
Enfin, prise dans le cas de Magellan, pardon, votre honneur, mais c'était un Portugais, non ?
Oui, mais pour ce qui est de 1565, mais
on va y venir tout à l'heure à 1565. Mais portugais ou espagnol, oui. Il y a ce fait d'encre et de papier. Et vous faites le rapprochement entre les deux pays parce que vous avez travaillé sur les archives espagnoles. J'aimerais que vous nous racontiez d'ailleurs ce que sont ces archives, que vous vous décriviez parcourant les archives. Chaunu faisait ça aux archives de Séville, Pierre Chaunu.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai retravaillé exactement sur les mêmes archives qu'avait plus que compulsé, qu'avait exploité Pierre Chaunu pour constituer ces immenses tables de statistiques sur la question des tonnages, hein, des navires, puisque ce sont les registres de la Contaduria, c'est-à-dire les registres de comptes des expéditions et puis évidemment de la gestion quotidienne des peuplements espagnols. Donc il y a les archives à Séville, évidemment.
Mais vous dites que c'est des archives trop confortables ?
Non, je dis qu'il y a un risque cherchant à travailler sur les Philippines espagnoles, qui étaient en fait gérées depuis le Mexique, à rester à Séville et à ne pas aller voir à Mexico. Et il se trouve que reste conservé à Mexico, à l'Archivo General de la Nación, donc aux archives nationales dans la ville de Mexico, en particulier les dossiers des procès de l'Inquisition intenté, conduit aux Philippines espagnoles au XVIe et au XVIIe siècle.
Vous parlerez d'un procès que vous avez débusqué dans un instant. Mais tout ça, ça ne nous donne pas une histoire à parts égales. Si tu as des questions à poser sur la mer, pose-les aux poissons. Mais alors, les poissons, comment vous trouvez une documentation sur l'autre côté ?
Oui, tout est fonction des situations. Et quand j'avais travaillé sur Java, sur l'arrivée des Hollandais à Java, également à la fin du XVIe siècle, en 1596, la situation, au sens de la situation documentaire, hein, de ce qui fait le matériau de l'historien, était très différente, puisque les Hollandais, dans leur sillage, les Britanniques et juste avant eux les Portugais, pénétraient dans un univers qui était un univers très fortement textualisé, un univers où on écrivait en malais, en javanais, des textes contemporains de l'arrivée des Européens, mais le cas échéant ne mentionnant même pas cet événement minuscule de leur arrivée. Alors, lorsqu'on bascule du côté des Philippines espagnoles à la fin du XVIe siècle, on est dans une situation complètement différente. On a à disposition seulement l'archive espagnole. On peut tout de même compter sur le secours de l'archéologie. C'est un appel aux historiens du fait impérial à prendre peut-être beaucoup plus langue avec les archéologues qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent. Et puis, ce à quoi on s'en trouve réduit, c'est à traquer dans l'archive espagnole, qui est toujours une archive du contrôle et de la répression, les moments où la traduction achoppe. et où, comme ça, cette archive capture quelques mots de langues qui, par ailleurs, dans l'état dans lequel elles étaient à l'époque, ont complètement disparu, mais qui nous mettent tout de même sur la voie d'autre chose. Donc on a de la porcelaine chinoise, à Cebu, les fouilles nous le révèlent, pour les 14e et 15e siècles, qui montrent que les Philippines étaient déjà puissamment connectées au reste de l'Asie.
Parce qu'il y a des Chinois avant les Portugais et les Espagnols.
Oui, il y a de grandes flottes commerciales chinoises qui mouillent régulièrement dans les Philippines, et puis il y a des présences chinoises permanentes sur les côtes des îles Philippines. Et d'ailleurs, ces présences chinoises, ces Chinois commerçants, seront les principaux intermédiaires des Espagnols avec les sociétés locales pour l'approvisionnement de Manille.
Alors, le bateau cingle vers les Philippines, on l'a laissé, Magellan, à son échec, la conquête, enfin, je ne veux pas employer ce mot-là, vous allez le récuser, l'arrivée minuscule des Espagnols aux Philippines va se faire dans les années 1560. Hein.
Voilà.
Et là, c'est pas par la route de l'Ouest.
Non. C'est par la route de l'Est, c'est-à-dire depuis le Mexique, oui. Depuis la Nouvelle-Espagne. Et en fait, dès les années 1510, on a découvert le passage jusqu'à la mer du Sud, c'est-à-dire jusqu'au Pacifique, et on lance des expéditions. Le problème, c'est que jusqu'en 1565, elles sont toutes des échecs cuisants, parce qu'on ne trouve pas la route du retour. C'est-à-dire qu'on sait aller, et c'est relativement facile en termes de navigation, pour prendre les vents, du Mexique jusqu'aux Philippines. En revanche, on ne sait pas revenir des Philippines. Et ça pose un gros problème pour les Espagnols, c'est que du coup, le seul moyen de quitter les Philippines, c'est de rentrer dans l'Asie portugaise, qui leur est officiellement, au terme des traités de Tordesillas puis de Saragosse, interdite.
Alors c'est un vieux Legazpi qui fait ce voyage aller-retour. Et souvenez-vous du bateau. Il y a toujours des religieux sur le bateau. C'est très embêtant, les religieux. Là-bas, c'est les Augustins qui vont s'installer dans la foulée de Legazpi. Et alors, partout, les religieux, à peine la conquête a-t-elle eu lieu, qu'ils la contestent. Là, il faut que je vous passe un extrait de la controverse de Valladolid. Elle n'a peut-être pas eu lieu.
Oui, ça.
Elle aurait pu avoir lieu.
Forme, mais presque.
On est au milieu du XVIe siècle, un peu avant l'arrivée aux Philippines. Il y a un érudit qui s'appelle Sepulveda, qui correspond beaucoup avec Las Casas, et qui lui dit que les Indiens sont des créatures qu'on peut soumettre par la force. Et Las Casas, le Dominicain, qui lui connaît les Indiens, dit ceci.
Depuis le début, les malheureux Indiens sont traités comme des animaux. D'abord, on les marque comme esclaves au fer rouge du nom de leur propriétaire. Au visage. Quand ils passent d'un propriétaire à l'autre, on les marque encore et encore. Ces marques s'accumulent sur leur visage qui devient comme du vieux papier. Par la suite, on les achetait en masse dans des mines d'or et d'argent. C'est par millions qu'ils ont été exterminés. Oui, par millions, comme des bêtes à l'abattoir.
Et par quel procédé ?
Tout est bon. Quelquefois, on les embroche par groupe de 13. On les entoure de paille sèche, on y met le feu. D'autres fois, on leur coupe les mains et on les lâche dans la forêt, en leur disant « Allez porter les lettres ».
Ce qui signifie ?
Allez porter le message. Allez montrer aux autres qui nous sommes.
Et pourquoi par groupe de 13 ?
Pour honorer le Christ et les 12 apôtres. Oui, je vous dis la vérité. Le Seigneur a été honoré par toutes les horreurs humaines. Tout a été imaginé.
Marielle et Carmet dans le film de Jean-Daniel Vérac, qui est adapté du roman de Jean-Claude Carrière sur la supposée controverse de Valladolid. Mais il n'y a pas que Las Casas qui le dit, les Augustins des Philippines le disent aussi. Et vous avez retrouvé aussi toutes sortes de suppliques, de lettres envoyées par les soudards de la conquête qui ont des remords.
Oui. Qui en tout cas s'expriment dans le langage des remords. Quant à savoir s'ils les ont vraiment éprouvés, c'est autre chose. Mais en tout cas, oui, et sentant évidemment la vieillesse venir et l'heure de rendre des comptes au Très-Haut s'approchant, un certain nombre des soudards et même des capitaines de la conquête des Philippines correspondent avec les autorités religieuses, et notamment les réguliers de Saint-Augustin, précisément pour demander pardon d'un certain nombre de leurs exactions. Oui.
C'est-à-dire que la conquête, à peine a-t-elle eu lieu, conquête entre guillemets, bon j'entends, qu'elle est critique, qu'elle se critique elle-même.
Oui. Pour moi, c'est la chose la plus frappante probablement. Tout ça commence au Mexique et même avant, hein, dans les Caraïbes, se poursuit aux Philippines à la fin du siècle. Mais au XVIe siècle, Sitôt institué le lieu du discours sur la conquête, et il faut lui mettre la majuscule qu'elle a dans les récits officiels, les récits commandités par la cour du roi, sitôt institué ce discours-là, se déploie sa critique. Et on voit là se mettre en place un espèce de pli moral dans l'histoire du rapport de l'Europe aux autres mondes, qui est extrêmement important, parce qu'après tout, des conquêtes sanglantes auparavant, on en a connu quantité. Mais des conquérants qui passent leur temps à se flageller pour leurs exactions et qui néanmoins continuent à les commettre avec une systématicité conséquente, ça, me semble-t-il, ça introduit là quelque chose de tout à fait étonnant.
C'est le long remords de la conquête. Vous dites même parfois « notre ». Long remords, mais je veux pas trop vous interroger personnellement.
Mais à chacun de se sentir ou pas, aujourd'hui, pour partie porteur de ce remords. Donc à chacun de se situer par rapport à cette histoire.
Donc les Philippines, 10 ans après la conquête, nous sommes en 1577, c'est là que va commencer votre livre, qu'on va à peine affleurer, Romain Bertrand. Il y a 500 Espagnols. 500 Espagnols, c'est rien. Manille, il y a 700 habitants. Il y a ces Augustins qui sont un peu comme les Lubavitch en Israël, et ils sont contre le fait d'être là. Il y a un nouveau gouverneur qui a remplacé c'est le vieux et qui est plein de lui-même, légèrement arrogant et qui trouve que les vieux soudards sont insupportables. Les vieux soudards, on leur a donné des encomiendas. Pardon, prononcez le mieux. Ah ben voilà. Mais il n'y a personne dessus souvent et personne pour les garder. Et on va faire comme le live de la Maison de la Magie, samedi soir. Allez, vous présentez les protagonistes.
Oui. Donc on est à Manille, en avril, mai, juin 1577, et le nouveau gouverneur espagnol des Philippines, qui est arrivé 2 ans auparavant, en 1575, Francisco de Sande, qui est un juriste au service du roi, qui a auparavant été procureur du roi à Mexico, arrive précisément pour remettre au pas, pourrait-on dire, la colonie. Le temps des capitaines et de la conquête à proprement parler est fini, et le temps des comptes et de la prise des comptes est arrivé. Et donc il arrive sur fond de bataille sociale entre la vieille garde de Legazpi, la vieille garde de la conquête, et puis les hommes nouveaux du roi.
Alors ça, c'est le premier protagoniste, et puis il y a,
voilà, c'est lui qui a
comme toujours avec vous, des sorcières, des philtres.
Oui, il y a des sorcières et des philtres. En tout cas, il y a 2 jeunes femmes philippines, tout juste trentenaires, dont on ne connaît que les noms espagnols de baptême, Inès et Béatrice, qui sont qualifiées de sorcières au cours d'un procès qui les mène tout d'abord sur le chevalet de torture et puis ensuite, malheureusement, au démembrement en place publique. Donc il y a effectivement des sorcières. Il y a autre chose aussi dans cette histoire, il y a un enfant.
Parce que l'enfant, il a été emmené dans des grands voyages aériens par les sorcières.
Exactement.
Et en fait, le procès qu'on va faire à l'enfant et aux sorcières, on se demande si c'est pas un procès contre le gouverneur. Mais on peut pas dire la suite, on n'a pas le temps. Non. Ça sera à la Maison de la Magie. En fait, si on aurait su, on n'aurait pas venu.
Ancré dans la baie. Où sont les autres ?
Morts. Les sauvages les ont emmenés.
On n'aurait jamais dû venir ici.
C'est Dieu qui nous punit.
La ferme. Il y a de l'or ?
Il y en a forcément, de l'or et des trésors.
Mais vous n'avez rien vu ?
On va faire fortune si on s'y prend comme il faut.
Comment ? En commerçant avec le diable ?
Faut s'en aller, faut repartir, cet endroit est maudit.
La ferme ! On fera ce qu'on pourra.
On n'a fait aucun mal. Regardez-les sourire et faire des courbettes. Les sauvages n'ont pas l'air sanguinaires.
Toute l'équipe de France Culture à Blois, j'ai pas le temps de la citer. Salut Mathieu Vidard, qui va nous présenter quoi au programme ?
Et beaucoup de monde, c'est le club des
beaucoup
têtes
de
au carré.
Beaucoup de monde aussi. Voilà. Bah oui, c'est le club.
Absolument,
le grand
dans un
cercle
instant.
De la tête au carré. Merci à vous.